Win it.
Bravo.
En direct.
Bravo en passant.
En direct. Avec JC.
En direct.
Et Patricia.
Radio. X.
Oh là là, OK, 13h07. Je sais que c'est un peu loin, mais en même temps, depuis que notre chroniqueuse Catherine Loubier nous a enligné sur ce qui se passe à Los Angeles, je vais souvent voir. Parce que Los Angeles, ça a l'air de rien, mais c'est quand même la deuxième plus grosse agglomération totale aux États-Unis. T'as New York et t'as LA, évidemment.
En décrépitude.
Et LA, puis moi, ce qui nous touche ici, c'est que la Californie, c'est le Québec du Sud. Ou on pourrait dire que le Québec est la Californie du Nord, quoique bien moins riche, mais avec un peu la même sensibilité politique, c'est-à-dire des gens très à gauche, des démocrates, des gens qui se complaisent dans beaucoup de taxes, puis beaucoup de services ou de demi-services publics, puis des gens qui ont l'impression... qui sont arrivés à comprendre quelque chose que le commun du reste des États-Unis n'a pas compris. Et ben ça marche plus ou moins. On a vu là depuis des années la Californie voir ses riches quitter et pas qu'à peu près. Là. Il y a quasiment un transfert avec le Texas. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont. Tout comme New York, d'ailleurs, qui est en train de virer très, très à gauche. Mais dans le cas de Los Angeles, il y a une course à la mairie très intéressante. C'est Catherine qui nous avait parlé de ça. Puis d'ailleurs, je vais lever son micro, je vais arrêter de parler tout seul. Madame Loubier, bonjour, vous êtes bienvenue.
Oui, bonjour, Jesse. Merci
d'abord. La première fois que tu m'as parlé de Spencer Pratt, j'avais aucune idée. Le fait que c'est un ancien de télé-réalité, moi, on n'a peut-être pas les mêmes écoutes, puis j'avais pas vu ça passer. Je connaissais pas le gars. Puis depuis ce temps-là, j'apprends à le regarder aller puis à le connaître. Et ça m'étonne quasiment que les gens de Los Angeles tripent sur ce gars-là. Il y a quasiment une anomalie là-dedans.
Ben c'est important parce que, tu sais, dans les États ici aux États-Unis, c'est beaucoup les grandes villes, comme au Québec, c'est beaucoup les grandes villes qui ont le vote libéral, si on veut. Là. C'est la même chose aux États-Unis. Donc, les grandes villes ont le vote démocrate. C'est là où la gauche trouve toujours son assise. Et donc là, ce qu'on voit, effectivement, c'est un phénomène. Quelqu'un qui se dit ni de droite ni de gauche, mais qui clairement est beaucoup plus lié aux idées des républicains, a reçu aussi un appui de Donald Trump, qui n'aurait peut-être pas voulu.
Ouais.
Et là, on se retrouve dans une situation où pas mal de gens disent la meilleure chose qui pourrait arriver à la ville, c'est que Spencer Pratt, ce gars-là, soit maire de Los Angeles, qui n'a aucune expérience en politique. Et pourquoi? Parce qu'il résonne avec son authenticité. Il a été capable de puiser dans la colère des électeurs ici à Los Angeles pour défier l'establishment démocrate. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes dans la ville. Ouais. Tu l'as dit, de l'exode. Il y a la question de la drogue et des sans-abri. C'est pas... l'itinérance. On parle d'une itinérance en particulier, celle du fentanyl.
Et d'ailleurs, lui, il dit clairement, et ça a l'air d'offusquer à peu près tous les animateurs de télé de tous les plateaux.
Ouais.
Parce que lui, il dit, on n'a pas un problème d'itinérance, on a un problème de junkie.
C'est ça. On a un problème de junkie, puis on leur donne plus de drogue puis de moyens de se droguer. Donc, les gens sont tannés de ça. Puis, il y a une bonne partie des gens aussi qui l'écoutent très bien, puis il est validé par des faits, à l'effet que les taxes ne vont pas dans des services aux Angelinas. Les taxes s'en vont dans un système qui est redonné à la gauche. Et ça, c'est scandaleux. Et donc, l'élection pour la mairie a lieu aujourd'hui même,
oui,
le 2 juin, pour la primaire. Puis si il y a un second tour, ce sera le 3 novembre, hein, l'élection de mi-mandat. Donc, en ce moment, on est dans la primaire.
C'est pas collé, hein, parce que donc, s'il gagne aujourd'hui 52 % mettons, des votes, il gagne, c'est ça?
Plus de 50 %. Okay. Exact. Si quelqu'un a plus que 50 % des votes, c'est terminé.
Puis on y revient.
Sinon,
parce que ça arrivera pas. Mais c'est ça, mais il me semble que c'est loin. Hey, juin à novembre.
C'est très loin.
Ben oui.
C'est très loin. Donc, en ce moment, la situation, c'est que c'est ce qu'on appelle un dead heat. Donc, ils sont à peu près, c'est incroyable, ils sont à peu près égaux. Donc, Karen Bass, qui a baissé dans les sondages, qui, selon UC Berkeley, le Los Angeles Times, serait à 26 %. La socialiste, Mme Rahman, qui est passée de 64 % à 8 % à la suite du débat télévisé, elle s'est fait démolir, elle serait à 25. Ouais. Moi, je ne crois pas vraiment en ça, mais en tout cas. Okay. Puis Spencer Pratt serait à 22 %. Donc, quand on prend la marge d'erreur, ils sont égaux. C'est incroyable.
Moi, j'en reviens pas parce que tu m'avais pas encore parlé de Nitya Raman. Donc, tu me dis que il y a quelqu'un encore plus à gauche que Karen Bass.
Complètement. Complètement. Puis le pire, c'est que et Karen Bass et Nitya Raman disent qu'elles peuvent régler les problèmes de Los Angeles. Mais écoute, ils sont là depuis des années. Where were they? Qu'ils ont fait?
Oui, parce qu'elle est déjà conseillère. Oui, c'est ça.
Oui, que Spencer Pratt monte du doigt, c'est pourquoi ce serait différent avec les mêmes personnes. Mais le fait que, si jamais aujourd'hui, personne n'a 50 %, lui, il vient de dire sur les ondes qu'il pense qu'il va l'avoir. Donc, c'est son message, entre autres, là, à la dernière minute. C'est un problème pour Pratt parce que, entre maintenant l'élection du mois de novembre, il va falloir qu'il garde son momentum. Hein? Ça, c'est pas facile. C'est pas facile et c'est plus facile d'être dans une situation où tu peux remonter, mais là, ils sont égales. Et puis, il y a son association avec Donald Trump. Hein? Il a dit « Ah, il est très MAGA. »
Ouais.
Et lui, il arrête pas de dire « Je ne suis ni républicain ni démocrate. Je suis pour les gens de Los Angeles. Ma maison a brûlé. Les rues, la drogue, etc. » Mais évidemment, d'ici novembre, les démocrates, avec toutes leurs machines, vont mettre le paquet pour le démoniser. Et puis, il sera la cible de toutes les attaques. Donc, pour lui, le temps qui court, ça ne l'aide pas.
C'est ça, l'histoire. C'est que là, au début, il était vu comme une espèce de phénomène de foire, là, le gars de télé-réalité. Ouais. Un peu, quasiment... tu sais, il n'était pas pris au sérieux. Là. C'était quasiment farfelu, tu sais, le gars, bon, débat.
Ben oui, mais assez rapidement, il a été pris au sérieux. Pourquoi? Parce que son message détonne. Est trop authentique. Il est basé sur les fait. Ben oui, il fait de la politique d'authenticité, puis les deux autres sont pas capables de nager là-dedans. Ils sont juste pas capables, puis en plus, ils ont un bilan complètement désastreux.
Mais tu m'en parlais, parce que je sais pas à quel point tu le connais, mais tu l'as déjà croisé, t'es un peu dans le même quartier que toi. Tu sais, je sais pas à quel point il est entouré, à quel point il y a une machine politique, parce que là, il va avoir plein de pièges. Puis je t'en amène un, là. Est-ce que c'était un piège d'aller au show de Bill Maher? J'ai pas réussi. Hey, c'est 2 heures quand même à avoir le gars fumer des joints puis à faire son entrevue à travers en prenant des shooters, là. Mais c'est très long. Mais moi, clairement, Bill Maher, il a envie de rire de lui, là.
Non, mais on n'a pas vraiment. Ben, je pense qu'il l'avait gagné. Hein. Il a dit tu m'as gagné. Bon, est-ce qu'il y a eu un contenu différent qui est sorti de l'entrevue de Myers par rapport à ce qu'on savait déjà sur Spencer Pratt, Joe Rogan, etc. Pas vraiment. Puis oui, c'est vrai que c'est pas son show télévisé. Ben Maher, c'est Club Random qu'on appelle. Ce show-là, ben il y a un verre dans les mains. Puis de plus en plus dans ce show-là, je veux te dire, il a l'air complètement pété.
Il fume des joints un après l'autre. Là.
Mais il disait, écoute, c'est ça, avec Woody Harrelson, ça avait pris des dimensions incroyables quand il venait à son émission. Mais il dit, on me demande partout de t'inviter. Et donc, je t'invite parce que tu captes l'attention. Et puis, t'as réussi à puiser dans le fed-up factor, le facteur où les gens sont plus capables. Donc, il l'a invité. Il a dit, tu sais, vrai, t'es authentique, t'as un côté direct, t'es un outsider, t'es en train de réussir, bravo. Mais Pratt a été assez critique envers Bill Maher en disant, écoute, moi, pour avoir fumé du cannabis devant des enfants, je t'arrêterais si j'étais mère. Il a commencé à parler à un moment donné, Bill Maher, des panneaux solaires. Il a dit, moi, j'en ai rien à foutre, c'est pas ça. Moi, je travaille pour les mères, je travaille pour familles de Los Angeles. Maher a dit, tu as été trop personnel dans tes attaques sur Karen Bass. Et puis, il a dit, mais comment ça peut être trop personnel? Elle était au Ghana pendant que les feux... On savait que les feux avaient déjà commencé. Les vents étaient records, historiques. La modélisation disait que ça allait brûler, d'autant que les compagnies d'assurance l'avaient vu venir puis avaient lâché tout le monde. Hein. Ils avaient désassuré tout le monde 2 semaines avant les feux. Puis elle s'en va au Ghana. Donc, il dit, oui, elle est responsable. Il faut qu'il y ait quelqu'un de responsable. Puis c'est elle.
Ben oui, c'est la
On va arrêter de dire qu'il n'y en a pas de responsable là, pour les 7, 8, 9 000 maisons qui ont brûlé. Ça va faire.
Mais alors...
Le réservoir était vide, nanana. Donc, lui, il personnifie avec Karen Bass, mais c'est ce qu'il faut qu'il fasse, il fait une campagne électorale. Puis l'autre message, c'est le vol des taxes, là. Tu sais, c'est son explication à... Là, peut-être ça, c'est bien. Il a répété encore une fois que les appellent les escrocs socialistes, la gauche champagne, la gauche caviar, comme on dit au Québec. Ouais. Donc, la gauche qui est au pouvoir vole de l'argent. Et ensuite de ça, les personnes qui devraient avoir cet argent, c'est les communautés. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Cet argent-là va dans les mains de d'autres gauchistes en dehors du gouvernement qui veulent continuer à pousser leur agenda idéologique. Puis il a fait des démonstrations factuelles de ça qui ont été appuyées par des gens qui ont une grande crédibilité. Donc, pour ça, je pense que les gens... Je l'entends autour de moi, elle est. Mmh. Je l'entends de plus en plus. Et les gens se disent, ben, soit on peut dire, ben, c'est comme ça les gouvernements, puis whatever. Ouais. Ou on peut changer les choses, puis voter pour Spencer Pratt, qui a moins d'expérience, mais au moins qui dit les choses comme elles sont, puis qui va essayer de régler des problèmes qui sont là depuis des années, pour lesquels on est désillusionnés.
Dans l'entrevue avec Bill Maher, à un moment donné, il jase du fait qu'il a été un peu collé quand même au Parti républicain à cause de son port d'armes, à cause de l'achat de ses fusils. Puis là, ben, j'ai enlevé un bout parce que c'était trop long, puis c'était en anglais, mais j'ai gardé un petit 30 secondes de l'échange où, justement, il dit, écoute, moi, j'ai eu des menaces parce qu'il a fait de la télé-réalité, puis dans la télé-réalité, moi, je ne l'ai pas écouté, mais j'ai compris que le gars avait été méchant, tu sais, c'était comme le vilain dans la gang. Mm-hmm. Puis les gens ont collé ce personnage-là, puis il y avait des menaces de mort. Donc, il explique à Bill Maher qu'il a eu à se procurer des fusils. On écoute l'extrait, puis on revient.
In Los Angeles, to have a gun, you need a CCW. So that's a concealed carry weapons permit. Very hard to get. And the only people that supported a CCW was the Republican Party. All I cared about politically was to protect my wife and then my kids. That's my only political thing I'm connected
to. So you're that voter who they always interview. What are the issues important to you? Because the rest of the world can go fuck itself. So that was the issue important to you. It could have been abortion, it could have been something else, but to you, it was just a gun.
Tu sais, quand je te dis que Bill Maher riait de lui, puis tu parlais des panneaux solaires, tantôt, tu dis que, bon, oui, mais là, on peut enlever des junkies puis mettre des panneaux solaires quand même. C'est pour ça que je trouve qu'il, tu sais, il sans dire qu'il dénigre, mais tu vois qu'il prend un peu de haut, puis tu sais, donc toi, t'es le genre
il
de
prend
gars...
prend de haut aussi, parce qu'il est complètement stone.
Oui, il y a ça. Il y a ça qui aide pas. Mais tu sais, il dit, donc toi, t'es le genre de gars quand on lui demande c'est quoi ton problème principal, c'est avoir un gun pour protéger ma famille. Ben, je t'annonce. Puis, tu sais, hier, on jasait sur Messenger. Je t'annonce qu'un gars raconte ça au Nevada ou en Arizona ou au Texas ou dans plein d'États américains. Puis, c'est un petit mardi. Personne ne parle de ça. Là.
Non, mais même ici, en Californie, là, parce qu'oublie pas que là, on parle de règlements sur le port d'armes liés à Los Angeles. Mais tu fais une demi-heure d'auto, tu es rendu dans Ventura County, le comté de Ronald Reagan, où il y a son musée, et tout le monde a des guns. Et tout le monde a des guns aux États-Unis. Là. C'est un droit
enchâssé dans la Constitution. Mais en Californie, c'est plus fragile quand même.
Bien, ça, c'est les deux Amériques. Je le disais tantôt, c'est dans les villes américaines, il y a beaucoup, beaucoup de démocrates, de gens de gauche qui sont sur des principes comme celui-là. Il y a assez de guns, on ne veut pas de guns dans nos rues. Puis, tu sais, avec raison, des fois, il y a eu des fusillades dans des écoles, etc. Puis, il y a une autre partie des Américains qui disent on ne peut pas toucher à ça, c'est sacré, c'est enchâssé dans notre Constitution, le droit to, the right to bear arms, le droit d'avoir une arme. Lui dit j'ai été menacé. Puis, l'autre chose, c'est qu'à Los Angeles, il y a aussi beaucoup de crimes, on l'a dit, beaucoup de drogue, mais il y a beaucoup de mauvaises personnes avec des guns. Là. Fait qu'à un moment donné, tu te dis même moi, là, il y a beaucoup de cambriolages, il y en a eu beaucoup après les feux, il y en a encore. Entend ça à tous les jours. Des weirdos un peu partout. Faut se défendre, là, à un moment donné.
Tu y penses. Veux pas.
Oui, tu y penses. Donc, c'est sûr que lui, en disant ça, il s'est quand même aliéné une partie des femmes démocrates qui auraient voté pour lui. Ouais. Lui, se disant démocrate à la base, toute sa famille est démocrate, etc. Donc, l'enjeu des guns. On revient aux enjeux divisifs dans n'importe quel spectrum droite-gauche.
Mais j'en reviens à ce que tu disais tantôt. S'il faut qu'il traîne ça jusqu'au mois de novembre, ça va être à tous les jours. Il va se faire attaquer là-dessus. Il va se faire coller, comme tu dis, Donald Trump, en plus, qui est allé donner une tape dans le dos. C'est pas nécessairement winner en Californie. Bref,
ça joue pas contre lui, mais ça veut pas dire qu'il peut pas... Parce que, bon, il a quand même eu le temps d'avoir plus d'argent dans ses coffres, plus d'organisateurs autour de lui.
Il
a plus d'expérience, puis son message continue de résonner. Puis le public est encore captif à ces fameuses publicités AI qui sont créées par d'autres gens, mais qui sont retweetées par lui, qui lancent des messages super directs, simples, puis vraiment no-brainer, comme on dit. Donc, il continue à en faire. Puis les gens parlent de plus en plus de lui. Il devient plus normal aussi, je vais vous dire ça. Ça joue pour lui. Il devient comme un peu plus normal. OK, on n'est plus sûr. Il était juste dans une télé-réalité. D'ailleurs, dans plusieurs de ses entrevues, il raconte comment il a fait des deals d'affaires, puis ça devient un homme d'affaires. Là. On comprend un peu plus, au-delà des rumeurs, qu'est-ce qui est vraiment ce gars-là, puis en quoi il croit.
Je vois le temps. On n'aura peut-être pas le temps de jaser d'Iran, mais je peux peut-être te laisser un petit 20-30 secondes pour parce que c'est pas réglé. Je sais pas si ça va se régler. Donald Trump doit commencer à penser à ce qui s'en vient en octobre.
Bien... Oui, mais regarde, aujourd'hui, c'est une des premières fois, c'est pas le front des journaux. Hein?
Ouais.
Et il y a toujours un processus de négociation entre les États-Unis et l'Iran. C'est quand même mieux que de laisser la plus grande puissance, menace au monde agir seule. Il y a un processus, il y a de la restriction. Hein? Tantôt, il y a un cessez-le-feu qui est brisé, le Hezbollah avance au Liban. Tantôt, Israël brise le cessez-le-feu. Tantôt, l'Iran brise le cessez-le-feu dans le canal Hormuz. Mais tout ça a comme c'est restreint. On évite l'escalade de part et d'autre. Alors moi, j'aime ça. J'aime ça qu'il y ait un processus comme ça. Ça peut durer longtemps. Beaucoup de gens sont impatients. Beaucoup. Mais l'autre option, c'est d'attaquer l'Iran. Puis là, il y a vraiment d'autres genres de conséquences. Puis, pour terminer, l'étau de l'opération Economic Fury, il n'y a pas juste Epic Fury, de sanctions puis de saisie, même crypto, de l'argent de l'Iran qui finance ses opérations de guerre et sa proxy, le Hezbollah, ça, l'étau se resserre. Beaucoup, beaucoup. Et les alliés participent aussi à resserrer l'étau des sanctions financières. Alors moi, je dirais patience. On verra comment tout ça va terminer, mais on est quand même dans une situation où il y a un processus qui avance lentement, recule de 2 pas, avance de 6, mais il est toujours là, le processus.
Catherine Loubier, merci beaucoup. Bonne semaine.
Merci. Bonne semaine.
Salut, bye. Catherine Loubier, ancienne déléguée générale du Québec à New York, ancienne conseillère aussi à l'époque de Stephen Harper, le PM. On va faire une pause. Hey, c'est une espèce de mardi girl power.
Oh, comment ça?
Après la pause. Écoute, ça fait un petit moment, j'aime ça. On aime ça se parler de temps en temps. C'est le retour d'Annie Trudel.
Oh!
Ouellette, en direct.
En direct. On revient dans pas long.
Radio X.